Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Des soldats érythréens ont tué des centaines de civils en novembre 2020 à Aksoum au Tigré, région du nord de l'Éthiopie en proie au combat, lors d'un massacre qui pourrait constituer un crime contre l'humanité, accuse ce vendredi dans un rapport Amnesty International, en se fondant sur des témoignages et des images satellites. Les preuves sont accablantes et mènent à une conclusion effrayante. Les troupes éthiopiennes et érythréennes ont commis de multiples crimes de guerre dans leur offensive pour prendre le contrôle d'Aksoum, affirme le directeur régional de l'ONG pour l'Est et le Sud de l'Afrique. L'attaque d'Aksoum aurait été organisée selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme, en représailles après une attaque menée par les forces du Front de libération du peuple du Tigré. Au Niger, la tension liée à la présidentielle de dimanche persistait jeudi à Niamey, où entre autres le domicile de Moussa Kaka, correspondant de RFI, a été vandalisé et incendié. La présidentielle a été remportée selon la CENI par le candidat du pouvoir, Mohamed Bassoum, mais elle est contestée par son adversaire de l'opposition, Mahamane Ousmane. Deux personnes sont mortes lors des troubles qui ont suivi l'annonce de la CENI mardi. Bagassi Koura nous donnera d'autres détails. Au Sénégal, le député Ousmane Sonko, figure de l'opposition qui fait l'objet d'une plainte pour viol très médiatisée, a défié jeudi la justice en affirmant lors d'une conférence de presse qu'il ne répondrait pas à une éventuelle convocation du juge à la veille de la probable levée de son immunité parlementaire. C'est aujourd'hui en effet que l'Assemblée nationale, dominée par les fidèles du président Macky Sall, doit se réunir en plénière à ce sujet. Nous y reviendrons avec Malik Ndiaye du PASTEF, le parti de M. Sonko, en seconde partie de cette édition. En Libye, un plan gouvernemental a été présenté au Parlement, a annoncé le premier ministre désigné Abdelhamid Dbeibe, choisi le mois dernier dans le cadre du dialogue interlibyen organisé sous l'égide des Nations Unies. Ce gouvernement sera constitué de technocrates qui représenteront la Libye, a-t-il déclaré, ajoutant avoir tenté d'attribuer équitablement les postes entre l'Ouest, l'Est et le Sud du pays. Ce gouvernement intérimaire sera chargé de remplacer les deux administrations libyennes rivales et de conduire la Libye vers des élections en décembre. La Libye a plongé dans le chaos depuis la chute en 2011 de Muammar al-Kadhafi. Les États-Unis sont en avance de plusieurs semaines sur le programme de vaccination contre le COVID-19. S'est félicité jeudi le président Joe Biden, qui avait promis 100 millions de doses administrées en 100 jours à sa prise de fonction le 20 janvier. Pour autant, ce n'est pas le moment de baisser la garde, a-t-il averti, en demandant aux Américains de continuer à respecter les gestes barrières. Par ailleurs, le président Biden a exhorté jeudi soir le Congrès américain à adopter rapidement son plan de relance malgré une décision qui l'empêchera d'inclure la hausse prévue du salaire minimum horaire. Cette décision a été prise hier par la responsable chargée de protéger les règles du Sénat, condamnant de fait cette clause à disparaître. Les États-Unis ont frappé jeudi des infrastructures utilisées par des milices pro-iraniennes dans le nord-est syrien. Ces frappes ont fait 17 morts, selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman. Elles ont été autorisées, ces frappes, par le président Biden, en réponse aux attaques récentes contre le personnel américain et de la coalition en Irak, et à des menaces toujours en cours contre ce personnel, a expliqué le porte-parole du Pentagone, John Kirby, qui a qualifié cette opération militaire de défensive et de proportionnée. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. suite de nos informations, au Niger, selon le ministre de l'Intérieur, deux personnes sont mortes lors des troubles qui ont suivi l'annonce mardi des résultats de la présidentielle. La France a condamné les violences post-électorales. Bakassi Koura.
Le bilan est de deux morts, a déclaré hier le ministre de l'Intérieur, Al-Kasha Al-Adda, qui a aussi annoncé 468 arrestations depuis mardi, dont l'ancien chef d'état-major des armées, Moumouni Bourema, réputé proche de l'opposant Hama Amadou. Ce dernier n'a pas pu se présenter, mais avait soutenu la candidature de Mahaman Ousmane. Le ministre a ouvertement accusé Hama Amadou d'être à l'origine de ces troubles en précisant qu'il est activement recherché mais serait en fuite. Après les échauffourées mardi et mercredi, les forces de l'ordre sont bien visibles sur les grandes artères de la capitale. Mardi, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé la victoire de Mohamed Bazoum, candidat du pouvoir, avec 55,7% des voix. L'ancien président Mahaman Ousmane, candidat de l'opposition, conteste les résultats et s'est proclamé vainqueur avec 50,3%.
Au Sénégal, le président Macky Sall a dit jeudi vouloir donner l'exemple en se faisant administrer une première dose du vaccin chinois Sinopharm contre le Covid-19, deux jours après le lancement de la campagne de vaccination dans son pays. Le point avec Abdourahman Dia.
Le président sénégalais a annoncé sur Twitter qu'il venait de se faire vacciner. L'espoir est permis pour tous, je lance un appel à toute la population pour faire de même, a-t-il tweeté. Aujourd'hui que nous avons l'arme nécessaire pour réduire la propagation de notre ennemi, voire l'éliminer, nous ne devons pas rater l'occasion, a-t-il exhorté à ses compatriotes. La cérémonie a été retransmise en direct par la télévision nationale. Son épouse et plusieurs personnalités ont reçu à sa suite leur dose de vaccin. Le Sénégal a acquis auprès de la Chine 200 000 doses de vaccins Sinopharm qui lui ont été livrées le 17 février et dont il a rétrocédé 20 000 doses à deux de ses voisins, la Gambie et la Guinée-Bissau. Plus de 4 000 personnes ont été vaccinées mardi selon les autorités sénégalaises. La campagne vise en priorité les quelques 20 000 membres du personnel de santé et les personnes âgées. Le Sénégal a comptabilisé plus de 33 740 contaminations et 852 décès.
Au Maroc, le gouvernement a entamé l'étude d'un projet de loi pour légaliser l'usage thérapeutique du cannabis. Le point avec Eric Manirakidza.
Le texte de loi prévoit la création d'une agence nationale de régulation des activités liées au cannabis chargée de développer un circuit agricole et industriel dans les régions autorisées à produire. Les quantités produites légalement ne devront pas dépasser les volumes nécessaires pour la production à caractère médical, pharmaceutique et industriel. Ce projet de loi précise aussi que les cultivateurs devront intégrer des coopératives agricoles et traiter uniquement avec des sociétés autorisées. Légaliser l'usage thérapeutique permettra de se positionner sur un marché mondial et d'améliorer les conditions de vie des cultivateurs et va les protéger des réseaux de trafic de drogue. La culture, la vente ou la consommation de drogue sont strictement interdites au Maroc, mais dans le nord du pays, grande région productrice, le kif fait partie du patrimoine local, sa consommation est largement tolérée. Et sa production fait vivre, selon des estimations, entre 90 000 et 140 000 personnes.
La Minute Éco, Nanik Talani.
Au Kenya, les exportations de thé ont généré 120 milliards de shillings, soit 1,1 milliard de dollars l'an dernier, contre 117 milliards de shillings en 2019. Le Kenya a vendu 518 900 tonnes sur le marché international, soit une amélioration de 4% par rapport à 2019. Les principales destinations du thé kényan ont été le Nigeria, l'Égypte, le Soudan, le Royaume-Uni, la Russie, le Yémen et le Pakistan. Le thé est l'une des rares filières agricoles qui n'a pas souffert du ralentissement de la demande due au Covid. Le Kenya est le principal exportateur mondial de thé noir. Afin d'améliorer les prix du cacao, le chef de l'Organisation internationale du cacao veut amener d'autres producteurs ainsi que des consommateurs d'Asie et des États-Unis à rejoindre le dialogue lancé entre l'Union européenne
et la Côte d'Ivoire sur ses fèves. La Côte d'Ivoire et le Ghana, avec 65% de la production mondiale, sont toujours des preneurs de prix. S'ils étaient à 90%, ils ne seraient pas preneurs de prix. Nous avons donc besoin de plus de producteurs à bord, a déclaré Michel Arion. Pour terminer, les producteurs de pétrole de l'OPEP discuteront d'un léger assouplissement des freins à l'approvisionnement à partir d'avril en raison d'une reprise des prix, même si certains ne veulent pas de changement pour l'instant à cause des risques dus à la pandémie. Reuters rapporte que trois sources de l'OPEP ont déclaré qu'une hausse de la production de 500 000 barils par jour à partir d'avril semblait possible sans constituer des stocks.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. On connaît les deux premiers qualifiés pour les demi-finales de la CAN des moins de 20 ans qui se jouent en Mauritanie. Le Ghana et l'Ouganda sont venus respectivement à bout du Cameroun et du Burkina Faso à l'issue des tirs au but en quart de finale hier sur place à Nouakchott. Kader Traoré nous fait le point.
La Coupe d'Afrique des Nations de football dans la catégorie des moins de 20 ans et qui se joue du côté de la Mauritanie depuis le 14 février dernier est entrée dans sa phase des quarts de finale. Hier jeudi, au stade olympique de Nouakchott, les Black Starlets du Ghana ont sorti les Lionceaux indomptables du Cameroun, 4 tirs réussis contre 2 lors de la séance des tirs au but. À l'issue du temps réglementaire et des prolongations, les deux formations se tenaient au coude à coude, un but partout. C'est à l'issue de cette même épreuve des tirs au but que l'Ouganda est venu à bout du Burkina Faso, 0-0 après 120 minutes de jeu et au finish, l'Ouganda s'impose 5 tirs contre 4. Oscar Barrow, le sélectionneur des étalons du Burkina Faso, dira que ces garçons ont manqué de justesse devant les buts.
Je dirais qu'on n'a pas été efficace aujourd'hui devant les buts parce que les opportunités se sont bien présentées. C'est ce qui nous a un peu amené à cela. Le fait de trop rater les occasions et les joueurs sont allés en doute et ça fait qu'ils n'étaient plus sûrs d'eux-mêmes. Pour faire des actions franches et déterminantes devant les buts.
Pour le sélectionneur de Kurin de l'Ouganda, ces jeunes ont mieux fait que se défendre et finalement, la victoire leur a souri. On écoute Morley et Moses Biekasso.
We came as underdogs, but football is very fun and tricky.
Ils sont venus, mais pas en étant des favoris, mais en football, quand ils gagnent, ils obtiennent plus en plus de confiance et tout. Bon, la défaite contre Cameroun les a beaucoup aidés. Bon, c'est pour cela là que le fait de gagner les a aidés. Maintenant, ils sont en demi-finale et ils feront tout pour s'en sortir.
Like these people, so it really motivated us to know that we can now manage.
Les deux autres quarts de finale auront lieu ce soir. À Ouagadougou, le Maroc sera opposé à la Tunisie pour un duel du Maghreb. À Nouakchott, la République centrafricaine et la Gambie, deux invités surprises à ce niveau de la compétition, tenteront d'arracher le dernier ticket qualificatif pour les demi-finales. Kader Traoré, à Nouakchott, en Mauritanie, pour VO Afrique.
Ici, à MLS, Thierry Henry a quitté ses fonctions d'entraîneur du CF Montréal, équipe du championnat nord-américain de football qu'il dirigeait depuis 2019. L'ancien international français a expliqué n'avoir pas pu voir ses enfants rester au Royaume-Uni en raison de la pandémie de COVID-19. Il a évoqué une année extrêmement difficile personnellement pour justifier sa décision selon des propos rapportés dans un communiqué du CF Montréal. C'est avec le cœur lourd que j'ai décidé de prendre cette décision, a expliqué Henry dans ce communiqué. La séparation est trop douloureuse pour moi et mes enfants. Je dois donc prendre la décision de retourner à Londres et quitter le CF Montréal, a ajouté le champion du monde en 1998 qui a pris les rênes de Montréal à la fin de l'année 2019.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, l'Assemblée nationale se réunit ce vendredi en plénière pour statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député et opposant Ousmane Sonko, accusé de viol. Son parti dit qu'il s'agit d'un complot visant à éliminer un adversaire du président Macky Sall. Abdourahmane Dia a joint à Dakar Malik Niaï, secrétaire national de la communication du parti PASTEF, qui fait d'abord le point sur les arrestations de militants depuis le 8 février.
D'abord, ils étaient une quarantaine, ensuite ils en ont libéré une vingtaine et il restait 19 personnes. Ensuite, ils ont procédé à l'arrestation de notre administrateur général du parti, Guillaume Soleil Diop, du chargé de l'organisation et du coordonnateur de PASTEF Dakar à Basfal, de Mme Fatima Mbeng, qui est l'assistante du président Ousmane Sonko, et de la femme de notre administrateur général, qui est ensuite un de nos cadres, un ingénieur travaillant dans une société télécom de la place, à savoir Dairu Cham. Donc actuellement, on peut dire qu'on a au moins une trentaine derrière les barreaux.
L'Assemblée nationale se réunit en plénière également vendredi pour statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du leader de votre parti, Ousmane Sonko. Quelle est la position du PASTEF sur ce processus et qu'est-ce que vous comptez faire?
Je pourrais dire la position du peuple, hein, parce qu'actuellement, il ne s'agit plus de PASTEF ou de la personne du président Ousmane Sonko, mais c'est en quelque sorte un regroupement de toutes les forces vives de la nation qui constate que la démocratie au Sénégal est très menacée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, étant donné que tout a été biaisé depuis le début, ils n'ont rien respecté sur la procédure normale des choses. On ne peut pas s'attendre à grand-chose si on regarde là où ils sont passés avec Khalifa, avec Kari Watt, entre tout potentiel adversaire est écarté, disons, de la course. Il l'a fait avec Kari Watt, il l'a fait avec Khalifa Sall.
Justement, parlant de complot, le président Macky Sall a indiqué sur une autre radio internationale qu'il n'avait pas le temps de s'impliquer dans des complots. Qu'est-ce que vous avez à répondre?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, il n'ose pas le dire aux Sénégalais. Donc, il était en train peut-être de le faire, je dirais même, les puissances étrangères et peut-être jouer un peu, voilà, de la diplomatie, ainsi de suite.
Alors, le leader de l'ONG, Diamra, a indiqué dans les médias sénégalais qu'une médiation avec les chefs religieux, en tout cas certains chefs religieux, va être entamée. Pour faire baisser la tension au Sénégal. Vous êtes au courant de cette initiative et quelle est votre position là-dessus?
Ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir au Sénégal. À chaque fois qu'on voit quelque chose qui mène peut-être vers le mur ou en tout cas peut amener des problèmes dans ce pays, on a vu des gens prendre leur bâton de pèlerin et essayer de jouer une médiation, en tout cas pour trouver une issue heureuse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir au Sénégal, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on l'a découvert au même moment que tout le monde, donc ils sont libres de le faire, et voilà, nous allons voir ce que ça va donner.
Malik Ndiaye du parti PASTEF était joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Tchad, l'opposant Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs, a déposé hier sa candidature à la présidentielle du 11 avril. À 38 ans, il semble être d'emblée exclu à cause d'une révision constitutionnelle ayant fait passer l'âge minimum de 35 ans à 45 ans. Toutefois, ce n'est pas l'avis de son parti. Le représentant des Transformateurs au Canada, Benjamin Miliati, affirme que sans leur candidat, les élections n'auront pas lieu au Tchad. Nani Talani a joint dans la ville de Québec où il vit Benjamin Milaili.
C'est une injustice, il faut le dire, parce que le régime actuel, vu qu'il s'agit d'un candidat très sérieux, M. Masra, et donc le pouvoir a tout fait pour vouloir l'écarter, en remontant par exemple le plafond de l'âge pour être éligible aux élections présidentielles au Tchad à 40 ans. Mais nous, on pense qu'il y a des traités au niveau, que ce soit de l'Union africaine, etc., qui permettent à notre président, M. Succès Masra, d'être candidat aux élections d'avril.
Qu'est-ce que vous comptez faire?
Qu'on le fasse avec nous, alors cette élection ne se passera pas. Depuis le 6 février, nous avons déjà commencé chaque fin de semaine à faire des actions et donc ça va culminer jusqu'à le jour des élections. Donc cette élection n'aura pas lieu sans notre président, ça c'est certain. C'est d'ailleurs tous les Tchadiens qui attendent ça.
Est-ce que vous avez les moyens d'empêcher cette élection d'avoir lieu?
Les Tchadiens ont les moyens d'empêcher ça parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, hein, quelque chose d'historique. Maintenant, les Tchadiens, surtout N'Djamena et dans toutes les autres villes, peuvent descendre dans la rue, chose qui était impossible, impensable il y a quelques mois. Mais les transformateurs ont amené une nouvelle façon de voir le pouvoir, une nouvelle façon de penser à la jeunesse, si bien que, oui, nous avons des moyens pour empêcher cette élection de se passer si d'abord aventure, on empêchait M. Massa de faire la compétition.
Mais je crois qu'il a été déjà écarté, non? Puisque à 38 ans, il ne peut plus se présenter, l'âge désormais à 45 ans.
Le président a déposé sa candidature à la Cour suprême. Ça veut dire qu'il y a matière à débat en ce moment, donc la candidature n'est pas encore écartée. Pour nous, c'est chose faite, parce qu'il y a des arguments solides. Hein. Du point de vue du droit, il y a des éléments qui permettent à notre président de participer à cette campagne électorale pour être le futur président du Tchad.
Est-ce que vous pensez qu'il y aura des élections transparentes?
Transparentes, ça n'a jamais existé au Tchad. Hein. Pour mémoire, je vous dis que ça fait déjà 30 ans, 3 décennies que nous avons le même président au Tchad. On a l'impression qu'il s'agit plus d'une monarchie ou je ne sais pas que d'une république. Mais là n'est pas le problème. La transparence, non. Mais cela ne nous empêche pas, nous, d'aller à la compétition. Ils ont empêché tous les partis de politique jusqu'à maintenant de faire la campagne pendant que le président, lui seul, a fait le tour de toutes les régions du Tchad pour faire la campagne. C'est impensable. Pourtant, c'est ça qui se passe dans ce pays qui s'appelle le Tchad. Donc, moi, je ne crois pas à la transparence. Et d'ailleurs, ils recrutent même des jeunes. Et ce sont ces proches qui sont dans la CENI. Mais ça ne nous fait pas peur. Nous irons aux élections pourvu qu'on permette à notre candidat. Et nous allons faire face à tout cela.
Sans transparence garantie, comment comptez-vous l'emporter contre M. Idriss Déby?
Il y a un seuil où on peut tricher. Mais au-delà, écoutez, nous, c'est clair qu'on a avec nous quasiment la totalité des Tchadiens avec nous. C'est la première fois qu'on amène comme ça un projet de société que les Tchadiens aujourd'hui en raffolent à tous les niveaux. Si 80% des Tchadiens qui sont des électeurs votent pour notre candidat, quelle que soit la machine de tricherie que le régime mettait en place, ça ne fonctionnera pas en leur faveur. Donc nous, on compte là-dessus. Évidemment, il faut que les autres partis soient aussi optimistes comme nous et qu'ils fassent leur part. Mais nous n'avons pas peur qu'on nous laisse aller, quelle que soit la façon où ils sont en train de tricher. Mais nous, on veut aller aux élections.
Pourquoi est-ce que l'opposition part en rang dispersé au lieu de désigner un candidat unique?
On est désolé de cela. C'est certain qu'il faut le relever pour certainement se dire qu'on aurait pu aller ensemble regarder dans le paysage politique tchadien et puis voir quel est le candidat qui est mieux placé et puis les autres peuvent se rallier à cette candidature. Mais il ne nous appartient pas à nous de nous prononcer là-dessus. Chaque candidat, chaque parti est créé pour remporter les élections présidentielles. Dans l'idéal, ça serait bien d'avoir une coalition pour l'ensemble de l'opposition. Mais bon, il ne faut pas rêver non plus en couleur. Chaque parti peut décider de faire ce qu'il veut.
L'opposant tchadien, Benjamin Melaïti, représentant du parti Les Transformateurs au Canada.
VOA Afrique en direct de Washington.
Vivre la parenté à plaisanterie était le thème de la troisième édition du festival Soudou Baba au Burkina Faso, organisé du 18 au 21 février par Moulay Diko alias Diko Fils. Ce festival de musique vise à promouvoir la paix et la stabilité. Retour sur l'événement avec notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Ouagadougou, podium dressé, des prestations de musiciens et un public. Nous sommes au festival Soudou Baba. Cette année, le festival se penche sur une thématique d'actualité, la réconciliation nationale. Et pour ce faire, il met en avant une valeur culturelle, la parenté à plaisanterie. Nourdine Confé est un festivalier.
D'abord, le thème qui m'a plus attiré en fait, la parenté à plaisanterie. C'est quelque chose vraiment qui est nécessaire dans notre pays. C'est ce qui m'a plus attiré en premier et en second lieu. Vraiment, tout m'a plu ici.
Aminata Bari est un soutien du festival.
On a un peu de problème de cohésion sociale, on a un peu de problème de terrorisme qui avec son corollaire. C'est un thème que les gens utilisent pour fédérer tout le monde, pour rappeler à tout le monde qu'est-ce que c'était le Burkina de l'époque, quel était le meilleur Burkina qu'on a eu. Donc tout ça, c'est un rappel à l'ordre. Quand la société veut aller de travers, ces thèmes nous rappellent à l'ordre pour dire attention, vos grands-parents utilisaient ceci, ont utilisé ce créneau pour sécuriser votre pays, pour que la paix et la cohésion sociale règnent dans le pays.
Et le festival est soutenu par les autorités du pays. Alimata Savadoué est la directrice générale des arts.
Le thème est très porteur. Le thème nous intéresse beaucoup, parenté à plaisanterie. Nous savons que ce thème-là contribue à la cohésion sociale, à la paix, à l'entente entre les peuples.
Et à ce festival Surubaba, tous les musiciens qui se sont exprimés sur scène appartiennent à différentes communautés. Diko Fils, musicien et promoteur de l'événement.
Il y a eu Sologia qui est Bobo, il y a eu Marie Gaëri qui est Gourma, mon petit frère Sage Koda qui est Peul, il y a eu Sanabob qui est Yarsi. Donc vraiment, on s'est amusé, on a montré tous les Burkinabés qu'il n'y a pas qui sont de Peul, Moussi, Gouroussi, Gourmanke, non. On est tous des enfants du Burkina Faso. Je pense que l'objectif est gagné.
Une édition qui a été difficile à mettre en place en raison de la pandémie du coronavirus. Des musiciens venus du Mali ont aussi pris part à la présente édition de Surubaba, une certaine ouverture à la promotion de l'intégration africaine. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
L'élection à la présidence de la CAF est prévue le 12 mars à Rabat, au Maroc. Quatre candidats sont en lice, Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, Ahmed Yahia, président de la Fédération mauritanienne, Jacques Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne, et le Sud-Africain Patrice Motsepe, qui dirige le club des Mamelodi Sundowns. Tous battent campagne pour succéder à Ahmad Ahmad, suspendu 5 ans par la FIFA pour soupçon de corruption. Le Malgache a été rétabli dans ses fonctions par le tribunal arbitral du sport, où il passe en appel le 2 mars. Yacouba Ouédraogo a joint le journaliste sportif Jean-Bruno Tain.
Le retrait de la candidature de Ahmad à un moment donné qui avait été sanctionné par la FIFA avant que cette sanction ne soit levée par le tribunal arbitral du sport a fait naître un certain nombre d'ambitions. Chacun a pensé qu'il pouvait reprendre la place qui est laissée vacante. Donc c'est pour cela qu'on a cette multiplication de candidatures à la présidence de la CAF.
Il y a donc finalement ces 4 candidatures-là. Le Sud-Africain Patrice Motsepe, notamment, est présenté comme le candidat de la FIFA. Est-ce votre avis?
Je n'ai pas des éléments qui me permettent d'affirmer que le Sud-Africain est le candidat de la FIFA. Toujours est-il qu'en général, chaque fois quand il y a une élection à la présidence de la CAF, le président de la FIFA a toujours un candidat qu'il soutient. Il vous souvient qu'Ahmad a été porté à bout de bras par la FIFA et installé à la tête du football africain. Aujourd'hui, la FIFA l'a lâché et est à la recherche d'un autre candidat de substitution.
Est-ce que le football africain ne court pas un danger en se laissant, je vais dire, emporter dans ses bisbilles avec la FIFA qui fait et qui défait ses dirigeants?
Il est impératif aujourd'hui de décoloniser l'administration du football africain. On observe qu'il y a pratiquement une tutelle de la FIFA sur le fonctionnement de la Confédération africaine de football. Il n'y a pas très longtemps, la FIFA a désigné sa secrétaire générale, la sénégalaise Fadma Samoura, pour assurer une espèce de tutelle à la tête de la Confédération africaine de football. Et il a suffi que Infantino décide qu'il n'a plus besoin de Ahmad, le président élu de la Confédération africaine de football, pour qu'il ne soit plus là. C'est quelque chose qui est un peu choquant pour les Africains, surtout que cette ingérence de la FIFA dans le fonctionnement du football africain, on ne le voit dans aucune autre confédération à travers le monde. Il n'y a que sur l'Afrique qu'on peut voir une ingérence aussi grotesque et humiliante du président de la FIFA. Et cela a toujours été le cas. Sepp Blatter, qui était là avant, contrôlait pratiquement toutes les fédérations africaines, sauf qu'il était un peu plus fin. Il était moins condescendant que Infantino aujourd'hui, parce que l'Afrique, c'est quand même 54 fédérations, ce qui est un vivier électoral important pour tous les dirigeants qui arrivent à la tête de la FIFA.
Justement, si la FIFA ne s'ingère que dans le football africain, est-ce que ce ne sont pas les dirigeants africains eux-mêmes qui facilitent cela en se compromettant, ne serait-ce que juste pour avoir la présidence de la CAF?
Je suis absolument d'accord avec vous. La FIFA manifeste cette condescendance, ce mépris vis-à-vis du football africain parce que les Africains lui ont prêté le flanc. Ce sont les Africains eux-mêmes qui ont ouvert la porte à cette condescendance de la FIFA vis-à-vis des dirigeants du football africain.
C'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Siludia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.